Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'esprit public, en public du Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Soyez les bienvenus et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Dans ce décor magnifique, nous allons comme toujours regarder autrement l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, l'économiste Daniel Cohen et l'essayiste Philippe Manière. Au sommaire de ce dimanche 30 septembre, mémoire du terrorisme, archi, commémoration, quel récit ou roman national nous propose Emmanuel Macron? Et puis point mort ou marche arrière, le Brexit aura-t-il lieu? La reconnaissance d'un système légal français dans la disparition de Maurice Audin, mathématicien communiste d'Alger, et en même temps, une enveloppe de 40 millions pour les familles de harkis, la préparation active des commémorations pour le centenaire du 11 novembre et pour les 60 ans de la 5e République. En cette rentrée compliquée, Emmanuel Macron semblait avoir trouvé refuge dans l'histoire. Il était vrai aussi que depuis son élection, le jeune président se posait en grand réconciliateur des mémoires. En s'attelant à celles douloureuses et multiples de l'Algérie française, peut-être Emmanuel Macron pensait-il aussi à Jacques Chirac et à son grand discours du Veldiv qui avait osé nommer la responsabilité de l'État français, considérant que 53 ans après les faits, la France y était prête. Mais celui qui inspirait sans doute le plus le jeune président, c'était Charles de Gaulle, le général dont Emmanuel Macron avait posé les mémoires de guerre bien en évidence sur son bureau pour qu'elle figure sur la photo officielle de son quinquennat. Cet illustre prédécesseur qu'il se préparait à célébrer sans fin ces prochaines semaines, jeudi prochain, le 4 octobre, Emmanuel Macron se rendrait sur la tombe du général à Colombey pour lancer l'anniversaire de la 5e République. L'Élysée, qui avait aussi prévu de célébrer en grande pompe en 2020 les 50 ans de la mort du général et les 80 ans de l'appel du 18 juin. Le roman ou récit national réclamait comme tout roman des héros et des épisodes forts. Macron choisissait à dessein De Gaulle, figure du dépassement des partis et des clivages, d'une France debout, grandiose et résistante, mais aussi d'un style présidentiel où le président triomphait sur la scène internationale, laissant à d'autres les dossiers du quotidien. Macron, né en 1977, se disait et se sentait libre de choisir à sa guise les grandes figures de son récit et la mise en scène. En novembre, par exemple, pour le centenaire de 1918, il marcherait plusieurs jours durant sur les sites des champs de bataille dans une inédite déambulation mémorielle, avant de convier les grands dirigeants de la planète, dont Donald Trump, de nouveau, pour commémorer l'horreur de la guerre, une victoire française et la valeur des alliés. Entre ces événements, il faudrait continuer d'écrire cet autre récit national qui lui se racontait au présent, le budget, les réformes. La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé, avait écrit un jour un grand romancier. Il s'appelait, encore, Charles de Gaulle.
L'histoire, c'est la recherche permanente d'une vérité et toujours en même temps une part de représentation. Parce que ce sont des traces laissées dans le passé, hein. Ce sont ces empreintes dans la cire. Et en même temps, c'est tout ce qu'il faut mettre pour redonner un sens à cette empreinte dans la cire et reconstruire la présence qui a été. Et donc, ces traces sont la part de vérité et recréer la présence de ce qui a été, c'est la part de fiction.
Voilà, vous venez d'entendre Emmanuel Macron sur France Culture en mars 2017. Il était alors au micro d'Emmanuel Laurentin. Sylvie Kaufmann, ce que fait en cette rentrée le chef de l'État sur le passé algérien, est-ce que c'est une parfaite illustration de la façon dont il conçoit les politiques mémorielles ?
Oui, je pense qu'on peut le dire parce que il y a d'abord cette volonté de revenir sur ce phénomène colonial dont il a beaucoup parlé à la fois comme candidat et depuis qu'il est président. Je crois qu'il a cette spécificité, Emmanuel Macron, d'avoir 40 ans. Et donc, il est vierge de ce passé colonial, il l'a dit. Et chaque fois qu'il va en Afrique, il le rappelle aux gens, en rencontrant les jeunes Africains. Il leur dit, regardez en avant avec moi, ne regardez pas derrière. Il a dit, je crois, quand il est allé en Algérie, il a dit à des jeunes Algériens, mais ne restez pas bloqués sur cette histoire qui n'est pas la vôtre. Donc, il y a cette volonté déjà d'affronter ce passé colonial d'une manière dont ses prédécesseurs n'ont pas pu le faire, soit en raison des générations auxquelles ils appartenaient, soit parce que le moment n'était pas encore venu. Et donc là, sur Maurice Audin, c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis longtemps. Bon, il y avait ce comité Maurice Audin qui, à la tête duquel se trouve Cédric Villani, puisqu'il est mathématicien aussi. Donc c'était, il y avait cette volonté de faire cet acte de reconnaissance de la responsabilité de l'État, hein, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est la responsabilité de l'État dans cette utilisation massive de la torture en Algérie, qui, comme il l'a dit, n'était pas juste le fait de quelques ou de militaires, mais qui était rendu possible par un système légal.
Voilà. Ce qui n'est pas la même chose que de reconnaître une responsabilité de l'État, comme a pu le faire ensuite Jacques Chirac.
Oui, ce système légal résultait d'un vote du Parlement français, donc qui donnait à l'armée les pouvoirs de la police pendant la bataille d'Alger en 57. Donc, il a dit, et d'ailleurs, la déclaration qu'il a faite dit bien, pour Maurice Audin, c'est au nom de la République française. Donc, je crois que c'est vraiment un pas en avant clair. Après, on peut bien sûr discuter de ses limites. On peut, par exemple, certains pensent qu'il aurait pu associer au nom de Maurice Audin deux ou trois noms très emblématiques pour les Algériens. Il aurait pu mentionner ces noms aussi. Il se trouve que Maurice Audin était un très bon cas, d'abord à cause du combat.
Et par ailleurs, il n'en a pas fini avec les harkis, car il y aura un autre geste fort.
Voilà, alors ça c'est le en même temps, je termine juste sur Maurice Audin, ce qui était effectivement le cas emblématique et le bon choix, si je puis dire, pour prendre cette décision. C'est que Maurice Audin était français, mais il était membre du Parti communiste algérien. Voilà. Donc, le en même temps, c'est les harkis, en effet. Et ça participe de cette démarche mémorielle qui a été exprimée plusieurs fois déjà par Emmanuel Macron, qui est la réconciliation des mémoires, c'est-à-dire ne pas aller que dans un seul sens. Et sur l'Algérie, on le sait bien que ces mémoires sont conflictuelles, elles sont duales, elles sont multiples. Et donc, d'un côté, il va reconnaître l'usage de la torture et le système légal qui l'a permis, et d'un autre, il va vers les harkis pour lesquels il prend une série de mesures. Il y a eu des décorations de Légion d'honneur, de l'Ordre du Mérite, etc. Il y a des crédits qui sont débloqués. Je crois qu'il y a d'autres mesures qui sont annoncées plus tard.
Hubert Védrine, cette déclaration laissera une trace ineffaçable, a dit Benjamin Stora, qui comparait cette lettre du président de la République à la famille Audin au discours de Jacques Chirac sur le Veldiv. Vous le trouvez habile, le président Macron, dans sa gestion du récit national, de ce qu'on peut appeler aussi les politiques mémorielles ?
Je pense que c'est un terrain très fragile, tout ça, très sensible. Personnellement, je suis très favorable à la vérité historique. Je me méfie de la mémoire et du devoir de mémoire, qui sont des constructions qui varient selon les moments. Et puisque vous parlez du Veldiv, je voudrais rappeler une chose. La seule différence entre ce que Jacques Chirac avait dit et ses prédécesseurs, c'est pas la reconnaissance de la responsabilité de Vichy, gouvernement de Vichy, dit de l'État français, etc. C'était de dire la France. Et après le discours, c'est la France qui, ce jour-là, commet l'irréparable. Après le discours de Chirac, il y a eu beaucoup de contestations des historiens, des milieux gaullistes classiques, et même de beaucoup de gens qui ont rappelé qu'il y avait le général de Gaulle à Londres, qu'il y a eu des résistants, pas très nombreux, mais enfin quand même au moins aussi nombreux que les collabos, et que d'autre part, la France est un des pays d'Europe occupés par les nazis où il y a le plus grand nombre de juifs sauvés, ce qui était établi parfaitement par le grand historien de la Shoah, Jacques Semelin, depuis. Et dans un deuxième discours, qui n'a jamais cité, de Jacques Chirac, quelques années après, au Chambon-sur-Lignon, région où il y a eu énormément d'enfants juifs cachés et sauvés, il n'a pas dit la France. Donc il a refait la même analyse historique et juste, il a dit ce jour-là, ceux qui ont commis l'irréparable. Donc il a corrigé dans un deuxième discours, ce qu'on a complètement oublié. Donc je pense que la référence, disons révérencieuse, un peu automatique, au Veldiv mérite, en tout cas sur un plan historique, d'être replacée dans son contexte. Alors pour le reste,
je citais Benjamin Stora qui a préparé avec le président de la République ce qui s'est passé pour cette affaire.
Je ne suis pas sûr qu'un président, aussi remarquable soit-il, puisse clore un débat historique, quel qu'il soit. Je ne crois pas non plus que le Parlement, quand les parlements votent des lois mémorielles, puisse mettre un terme aux réflexions. D'ailleurs, quand le Parlement français, qui n'est pas avare de vote dans ce genre, l'a fait à chaque fois, les plus grands historiens du moment, René Raymond, Pierre Nora maintenant, ont contesté le principe même des lois mémorielles, en fait. Au nom de quoi un Parlement a la légitimité pour dire la vérité historique? Qu'est-ce qu'ils vont dire 10 ans après, sauf si on est dans l'Église? Vous voyez, où il y a une sorte de spécialité sur le dogme. Donc j'observe ça avec une certaine estime. Je pense que c'est utile si c'est finement fait.
Et là, c'est le cas, selon vous? Parce que là, on n'a pas entendu beaucoup l'estime.
Pour le moment, c'est bien, oui. Pour le moment, c'est bien. Mais ça dépend de la suite. Et ça dépend de ce qu'il y a en face. Est-ce que l'Algérie, un jour... Obama avait dit un truc formidable à Obama dans son premier mandat, au Ghana. Obama pouvait se le permettre, le Ghana était bien géré. Il avait dit, de toute façon, arrêtez de raconter, vous, pays africains, que vos problèmes sont liés à l'esclavage et à la colonisation. Vous êtes très, très ancien, vous êtes responsable depuis très longtemps. Donc, il ne faut pas que tout ça soit utilisé comme une sorte d'alibi ou de prétexte. Donc, qu'on corrige le roman national par une exactitude historique nouvelle, j'applaudis les deux mains. Qu'on en fasse un roman antinational, ce serait une nouvelle erreur symétrique. On n'est pas dans ce cas de figure, avec Macron. Donc, il est sur un fil de crête, et j'espère qu'il continuera le chemin sur le fil de crête.
Daniel Cohen, est-ce que vous aussi, vous vous méfiez du roman national que toujours veut nous proposer un président de la République? Et par ailleurs, comment jugez-vous cette politique mémorielle d'Emmanuel Macron?
D'abord, pour poursuivre ce que disait Hubert, mais dire en gros le contraire, je pense que la référence avec le Veldiv est la bonne, et que cette déclaration de Jacques Chirac sur le Veldiv est peut-être la seule chose qui restera de son mandat présidentiel quand les historiens se pencheront sur ce que cet homme a fait. Mais c'est pas ce qu'on va retenir. On va retenir le fait que, avec Jacques Chirac, la France est enfin sortie de ce déni qui consiste à porter ce poids écrasant de l'héritage du gaullisme qui nous fait penser collectivement, et vous l'avez rappelé, mais en le corrigeant justement, que les Français étaient tous des résistants. Ils n'étaient pas tous des collabos, mais ils ont eu une responsabilité dans la collaboration. Et deux de mes collègues, Pierre Cahuc et Yann Algan, ont écrit un livre qui s'appelle « La société de défiance », dans lequel ils s'interrogent sur les raisons pour lesquelles les Français sont dans un rapport aux autres de méfiance significativement plus élevé que tous les autres peuples du monde. Et en faisant des études historiques très sophistiquées dans lesquelles je ne reviens pas, ils disent, avec une précision économétrique qui leur a valu les honneurs des plus grandes publications scientifiques, que c'est à cette époque-là, dans les années 40, que les Français ont perdu collectivement confiance en eux-mêmes, et que en France, quand on dit collaboration, nous allons engager une collaboration, ça donne des frissons aux gens, et cette absence d'esprit coopératif, collaborationniste des Français, selon eux, vient de là. Donc, se dégager de ce fardeau, de ce passé qui ne passe pas, pour reprendre cette formule, c'est essentiel pour redonner à la France confiance en elle-même. Chirac l'a fait, je crois. C'est l'héritier du gaullisme qui se débarrasse de ce fardeau gaulliste et, à sa manière, plus petite, bien sûr, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes mots, mais tout de même, c'est la deuxième grande blessure narcissique de la France au cours du XXe siècle, après avoir perdu la guerre. La France a perdu ses colonies et la guerre d'Algérie est cette deuxième cicatrice qui ne se referme pas, on a du mal à accepter. Et donc Macron, en reprenant ce langage, au fond, est dans cette tentative de redonner aux Français confiance en eux-mêmes, de pouvoir en réalité solder les comptes du passé. Je pense que c'est tout à fait fondamental. Et il y avait un article, pour faire le lien avec qui est Macron, il y avait un article il y a assez longtemps de The Economist qui s'appelait « La France », enfin, traduit en français, « Le déni français », Et quand Macron a été élu, la même journaliste a dit, voilà, peut-être que les Français sont en train de sortir de cette culture du déni. Macron fait partie de ça. De ce point de vue-là, sa filiation est peut-être à rechercher aussi avec Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, commentant la libération de Paris, auquel il a participé comme jeune lycéen, il était en classe prépa à l'époque,
raconte que quand De Gaulle, levant les bras en l'air, a dit « Nous avons Paris libéré, libéré » sans citer une seule fois les Américains dont on entendait les coups de canon à une dizaine de kilomètres, disait « Les bras m'en sont tombés, qu'on puisse raconter de telles histoires aux Français ». Mais il y a cette filiation-là de Macron qui veut entrer dans la modernité en se débarrassant de ce passé qui est beaucoup trop lourd à assumer pour que les Français puissent se regarder en face et donc regarder l'avenir.
Alors, quelle est exactement la filiation d'Emmanuel Macron? Je parlais tout à l'heure d'une sorte d'obsession gaullienne ou d'obsession du gaullisme chez Emmanuel Macron, Philippe Manière. On va évidemment s'en apercevoir ces prochains jours, le 4 octobre, avec l'anniversaire de la Ve République et puis avec un certain nombre d'anniversaires. Pourquoi est-ce qu'il y a ce choix de la figure gaullienne, selon vous?
Oui, il s'inscrit dans la filiation de De Gaulle, et à bien des égards, il y a des signaux qui laissent à penser que c'est légitime, compréhensible, en tout cas qu'intuitivement, on peut suivre cette métaphore, on peut la filer, et en même temps, le macronien moi-même, et en même temps, ce qu'il est en train de nous proposer, c'est pratiquement de refermer quelque chose qui, comme le disait Daniel, ressortit à une forme de parenthèse historique, c'est-à-dire celle de la fiction. Alors, c'est très intéressant parce que Macron, c'est un authentique cérébral, c'est un authentique lecteur, c'est quelqu'un de très cultivé, et donc son intérêt pour l'histoire n'est pas fin, c'est pas quelque chose qu'il ferait parce que ça correspondrait uniquement aux besoins du pays d'un point de vue tactique. C'est également quelque chose qui l'intéresse sincèrement. Ça, moi, j'en suis
absolument convaincu. Sur lequel il a travaillé avec Paul Ricoeur.
Il a travaillé aussi, mais voilà, avec Paul Ricoeur. De toute façon, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets-là. Et donc, il sait que la France est un pays, je crois qu'il n'y en a que deux dans le monde, je dirais la France et les États-Unis, qui a cette particularité d'être prosélyte, universaliste, qui a besoin d'avoir de lui-même une espèce de représentation quasiment mythologique, ce qu'on appelle la geste, le roman national, qu'on veut. C'est un besoin français. Alors, c'est très intéressant et c'est très utile à certains égards, mais ça nous amène parfois, pendant assez longtemps, à nous entretenir dans une sorte de mensonge national. Alors, ça a été évoqué s'agissant évidemment de cette espèce de fiction d'une France uniment résistante, qui ne tient pas évidemment l'observation élémentaire et que les historiens... à commencer, d'ailleurs, c'est intéressant, par des historiens étrangers, au fil du temps, évidemment, démontés. On avait connu un peu la même chose avec la fiction révolutionnaire. Rappelez-vous, quand Furet a ressorti Cochin, etc., et qu'on a vu que la révolution, c'était pas exactement aussi formidable que ce qu'on nous enseignait de toute éternité, ça a un peu tangué. Donc, on est, nous, un peu spécialistes de s'entretenir dans des fictions, alors, qui ont leur utilité. Je veux dire, la fiction révolutionnaire, elle a eu son utilité au XIXe siècle, elle a eu des inconvénients politiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais elle a eu quand même une vraie utilité. Ce pays s'est construit autour de l'idée qu'il s'était émancipé, oubliant complètement que d'autres s'étaient émancipés avant lui. Moi, je suis très frappé de voir le très petit nombre de Français, par exemple, qui savent qu'il y a eu avant la Révolution française, la Révolution britannique, la Révolution anglaise et la Révolution américaine. La plupart des gens pensent que la France a amené la Révolution au monde. Donc il y a cette fiction, encore une fois, qui est mensongère, qui a pu être corrigée, heureusement pour partie, pas complètement. Il y a la fiction qu'on vient d'évoquer s'agissant de la résistance. Et puis, il y a cette fiction autour de l'Algérie, dont on ne sait d'ailleurs pas exactement laquelle elle est, mais en tout cas, il y avait un tabou autour de ça. Là encore, ça, pour le coup, on n'est même pas cousin des Américains, parce que les Américains, après la guerre du Vietnam, il a fallu 10-15 ans avant que les premiers films, les premiers livres crèvent l'abcès du mensonge et de la propagande et de la fiction. En France, il nous a fallu plus de 50 ans, parce que c'était spécialement douloureux, parce que, il faut le dire ici, l'Algérie, pour les gens qui étaient concernés par le sujet, ça n'était pas une colonie, c'était la France, à la différence de tous les autres pays que la France a pu occuper. L'Algérie, c'était, du point de vue des acteurs européens de ce drame, la France. Et donc, on s'est enfermé dans une espèce de mensonge collectif, comme on l'avait fait dans bien d'autres cas, qui nous a empêchés de regarder les choses. Je trouve que c'est bien qu'on sorte de ce mensonge collectif, pour partie, à raison de ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est relativement sain, effectivement, de ne pas entretenir une sorte de suspicion qui tient au fait qu'on entretient la fiction, mais on n'y croit pas complètement, et puis parce qu'il faut aussi restaurer les victimes dans leur dignité. Et je finirai juste là-dessus, j'espère que ce n'est qu'une première étape, parce qu'effectivement, Maurice Audin, c'est très important, c'est très bien d'avoir fait ce qui a été fait, je crois, et on aurait dû le faire bien avant, mais il ne faut pas oublier les autres, je pense en particulier à tous les gens qui, devant des soldats français à qui on avait dit de ne pas intervenir, je pense à des harkis, mais aussi à des Européens qui étaient restés en Algérie après les accords d'Évian, ont été massacrés méthodiquement. Ce sont des milliers de gens qui, devant encore une fois des soldats français à qui on avait dit de ne rien faire, pour une raison que je veux dire, j'ai pas encore complètement comprise, ont été massacrés en Algérie. Donc, si on ouvre la boîte de Pandore, et je suis favorable à ce qu'on le fasse, il faut l'ouvrir complètement. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette question de réexploration de cet épisode.
Très rapidement, Hubert Védrine.
Puisqu'on parle de déni et de tabou, je pense que la concentration exclusive sur le régime de collaboration issu de la défaite sans précédent, pire que pendant la guerre de 100 ans et de l'occupation. Le vrai tabou, c'est l'effondrement de 40.
Oui, c'est vrai.
On en parle mille fois moins que de la période de la collaboration. C'est jamais arrivé comme ça. La France croyait avoir la première armée du monde. Et donc, je pense qu'on pourrait peut-être un peu rééquilibrer dans la recherche d'une vérité historique qui nous intéresse tous, en se demandant pourquoi, dans les 5 ou 6 années avant la guerre, la France n'a pas réussi à se mettre au niveau du réarmement allemand. Et pourquoi elle s'est décomposée en 40. Et le vrai tabou oublié, le vrai tabou enfoui, le vrai déni, il est là.
C'est aussi peut-être la source de la défiance qu'évoquait Daniel Cohen tout à l'heure. C'est-à-dire que la défiance, elle tient certainement au caractère bancal de la geste gaullienne, mais elle tient beaucoup aussi, en fait, à la stupéfaction de cette défaite totalement inattendue dans le monde entier.
On était censé avoir la première armée du monde.
Absolument.
C'est bien. Qui, en termes numériques, dans l'armée de terre, était vrai. C'est ça le vrai tabou, d'où est l'origine de la défiance.
Alors, néanmoins, ce n'est pas à ce tabou-là que va se confronter Emmanuel Macron dans les semaines et les mois qui viennent. Dans cet excellent journal dans lequel vous écrivez, Sylvie Kaufmann, face aux difficultés, Macron change de méthode, c'est le numéro de ce week-end. On parle donc d'un changement de méthode. Est-ce que ces politiques mémorielles annoncées peuvent faire partie de ce changement de méthode? On sait qu'il va y avoir beaucoup de choses au moment de la commémoration du 11 novembre. Je parlais tout à l'heure de déambulation mémorielle. Tous ces chefs d'État convoqués en France, j'ai cité Donald Trump tout à l'heure, et puis également tout ce à quoi on va assister la semaine prochaine, le 4 octobre, pour l'anniversaire de la 5e République. Est-ce que ça fait partie du changement de méthode? Est-ce que c'est utile pour se réconcilier avec la France?
Je ne crois pas que ça fasse partie du changement de méthode. Je crois que ça fait partie de la méthode Macron, puisque c'est quelque chose qu'il a commencé depuis le début, enfin depuis sa campagne et depuis sa présidence. Et cette question du roman national, il en a parlé beaucoup pendant sa campagne dans différents entretiens. Donc c'est vraiment un fil qu'il continue.
C'est un continuum. Mais là, le roman national ne fonctionnait plus.
Bah oui, mais là, si vous voulez, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Hubert Védrine là tout à l'heure en disant cette préoccupation que vous avez exprimée, est-ce que le risque de faire du roman national un roman anti-national, je crois que ça c'est quelque chose qu'il a à cœur, et moi personnellement je pense que au contraire c'est le propre des démocraties de regarder leur histoire en face avec les risques que cela comporte. Et après, c'est à nous, société, acteurs politiques, médias, intellectuels, de faire en sorte que ça ne devienne pas un roman antinational. Mais si on prend Vichy, c'est évidemment très particulier, mais rappelez-vous que c'est quand même, comme Philippe l'a mentionné tout à l'heure, mais qui a révélé Vichy aux Français? C'est Robert Paxton, c'est un historien américain, pour commencer. Et à partir de là, d'autres ont continué, et puis je crois que c'est ce qui a aussi permis à Jacques Chirac de faire la déclaration du Veldiv. Sur l'Algérie, il n'y avait pas de fiction, je ne crois pas. C'est différent, le cas algérien c'est différent, mais les historiens et les intellectuels et les journalistes ont fait leur travail sur l'Algérie. En réalité, ce qui est arrivé à Maurice Audin, tout le monde, à commencer par sa famille, le savait. Vidal Naquet a écrit un livre où il a dit exactement la vérité, en 58. Donc, le travail de mémoire, il avait été fait, et là-dessus, les politiques qui étaient muets, pourquoi? Parce que ni la gauche ni la droite ne pouvaient avoir le courage d'affronter ça, parce que pour leur rôle, je vais pas, ça serait trop long de revenir là-dessus, mais finalement, il a fallu quelqu'un comme Macron, plus le temps, 60 ans, et Cédric Villani, je suppose, pour finalement dire et commencer à bâtir ce roman national aussi sur l'Algérie. Alors, est-ce que, je suis entièrement d'accord avec Hubert là-dessus, est-ce que l'Algérie, elle, va faire son travail de mémoire? Je pense que ça sera beaucoup plus difficile vu la nature du régime algérien. Mais je crois que pour que ce travail puisse aussi commencer en Algérie, il fallait que la France donne le signal du départ, à mon avis.
Philippe Manière, réaction à ce qui vient d'être...
Non, je suis d'accord. C'est vrai que c'était plus du refoulé du tabou qu'une sorte de fiction pas crédible. Il y a tout de même, me semble-t-il, une forme de fiction qui était installée. C'est un sujet dont on parlait assez peu en France traditionnellement, parce que ceux qui l'avaient vécu ne voulaient pas en parler tellement c'était sensible, souvent, et parce que les autres, ça les intéressait modérément, une fois que les événements s'étaient un peu éloignés. Il y avait quand même une espèce de fiction, me semble-t-il, autour de l'idée que De Gaulle avait su trancher le nœud gordien d'une manière relativement propre et efficace. Moi, je dois dire, il a fallu que j'arrive à un âge relativement avancé pour que je comprenne que les accords d'Évian n'avaient pas été ce qu'on m'avait dit. Enfin, je veux dire, pardon, hein, mais ce qu'on enseigne aux Français, c'est pas que après les accords d'Évian, il y a eu des massacres dans tous les sens. Pendant très longtemps, on a nié l'existence du massacre des Harkis. En tout cas, on n'en parlait jamais. Et alors, j'ajoute que ce qui est arrivé aux Harkis, non, mais pardon, je parle de l'histoire qui était, je parle pas des spécialistes. Les spécialistes savent toujours tout sur leur spécialité. Ça n'a pas d'importance ce que les spécialistes savent si ça reste entre spécialistes.
La façon dont c'est enseigné.
Et les médias ne on ne parlait pas beaucoup de ces sujets-là, vous avez raison, à partir des années 2000, ça s'est fait beaucoup plus, mais pendant de très nombreuses années, on ne parlait pas tellement de ça. Et on ne parlait pas non plus de quelque chose qui est revenu, alors pour le coup, par les médias aussi beaucoup depuis une quinzaine d'années, qui était le sort fait aux Harkis, qui avaient échappé au massacre parce qu'on les avait admis en France, mais qui étaient enfermés dans des conditions absolument indignes. Il a fallu que des enfants de Harkis arrivent pratiquement à l'âge adulte et témoignent pour que ces sujets deviennent un sujet dont on parle. Tout ça, ça n'est pas glorieux. Tout ça, ce sont des faits historiques, et tout ça, ça ne faisait pas partie de l'histoire de France officielle. Donc oui, il y a tout de même ce travail qui a été amorcé, mais qui, je crois, peut être accompli jusqu'au bout, de telle manière qu'on regarde cet épisode de l'histoire comme les autres, c'est-à-dire comme ayant eu à la fois ses splendeurs, ses qualités, ses mérites pour ceux qui ont mis un terme au conflit, et aussi ses échecs, ses massacres, ses souffrances, ses douleurs évitables.
La mémoire des appelés aussi. Qui a été tue, ça, c'est vrai.
Nous avons commencé cette émission en disant qu'il y avait chez Emmanuel Macron, et vous l'avez rappelé en effet Philippe Manière, un souci peut-être plus intense ou plus fort que chez d'autres présidents de ces enjeux mémoriels. Est-ce que vous avez le sentiment, Daniel Cohen, qu'il va en effet les intensifier et peut-être aussi au fond parce que ça permet d'oublier ou de laisser à d'autres ce qui se joue au quotidien sur la scène nationale?
Oui, je crois que pour lui, pour reprendre cette idée du déni, est-ce que le déni du déni à valeur d'affirmation. C'est ça la question qu'on se pose. C'est-à-dire, est-ce que ça va lui permettre de reconstruire un récit positif ou simplement, voilà, de détricoter des mythologies anciennes? Et c'est ça la question, et c'est celle vis-à-vis de laquelle il faut se tourner, en ayant en tête que la France s'est construite, et là, bon, il faut relire Brodel notamment, mais aussi les travaux de Todd et Lebrun, sur une grande fiction qui est que la France est une et indivisible, que la France s'incarne dans la Constitution, alors que tout le monde sait, au moment de la fête de la Fédération, mais encore à la fin du XIXe siècle, qu'il y a 1000 Frances, comme on dit parfois 1000 fromages, alors que la formule de Todd et Lebrun, c'est il y a autant de différence entre un Normand et un Savoyard qu'il y en a entre un Anglais et un Polonais. C'est une France plurielle, multiple, qui, depuis surtout un siècle, et peut-être surtout depuis la Première Guerre mondiale, mais je pense que c'est un processus qui a été semé en œuvre tout au long du XIXe siècle avec l'urbanisation, veut se penser comme universel, unique, seul, et du coup qui a beaucoup de mal à accepter sa diversité intérieure, beaucoup de mal à comprendre ce qui, ailleurs, deviendrait du communautarisme. Nous, on est dans l'universalisme et on voit bien que c'est une dialectique qu'il faut retrouver pour accepter de reconnaître une part de diversité qui traverse les Français des origines, mais qui, du coup, a besoin de se repenser à l'heure de tous ces conflits autour du roman national qui, souvent, bascule dans un roman nationaliste. Et c'est là qu'on attend, en fait, Macron. Je pense que c'est ça qu'il a un peu en tête. Souvenez-vous, pendant la campagne, il était très fier d'aller dans les banlieues, on l'a déjà dit, en disant « ici, Madame Le Pen ne peut pas aller ». Il a mis sa propre campagne en péril lorsqu'il a été en Algérie pour dénoncer des crimes contre l'humanité. Et c'est le moment où il a failli perdre la campagne. Oui. Il a fallu que Bayrou vienne juste après pour aller le sauver, en réalité, de ce qui était une dérive. Donc ça veut dire que ça fait partie de quelque chose qu'il a en tête, une autre manière de parler de cette question, de cette France plurielle, nourrie par les vagues récentes de l'immigration. Et j'espère que c'est grâce à ça, à des propos comme cela, qu'il va pouvoir prendre autrement cette question. Je lisais récemment, on en avait parlé, le livre de Stéphane Beau, La famille Bellouni, c'est une famille algérienne, dont le père est venu d'Algérie, et c'est un roman français qui racontait, c'est-à-dire comment l'école a sauvé les filles qui ont pu sauver les garçons. C'est tout ça qu'il faut se réapproprier. C'est pas juste des mots se situer entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième qui va nous aider à faire ça, c'est d'aller au bout de ce raisonnement qui nous permet d'aller non pas casser, mais réfléchir en profondeur sur ce qu'est la France aujourd'hui, en commençant par écarter les idées fausses qu'elle peut avoir sur elle-même.
Et cette obsession mémorielle, Hubert Védrine, vous diriez qu'elle est le propre, qu'elle est spécifique à la France, qu'elle est spécifique à notre époque?
Je pense que tous les peuples sont construits sur des fictions. Enfin, toutes les histoires nationales sont, mais c'est pas les mêmes. Je pense que la quantité de tabous est à peu près la même tout le temps, mais elle change elle change de catégorie et de point d'application. Simplement, il y a des moments où les fictions dans un peuple en particulier deviennent complètement incompatibles avec le monde réel, ce qui est le cas de notre universalisme, par exemple. Mais la Grande-Bretagne qui croit avoir une relation spéciale avec les États-Unis, enfin, tout ça est du vent. Bon,
nous y venons.
Il y a plein de choses comme ça. Moi, je me demande simplement si... Je pense qu'Emmanuel Macron est le premier qui puisse tenter ça. Donc avec finesse, pour des raisons d'âge, pour des raisons de culture, de goût, de la spéculation intellectuelle. Donc je souhaite que ça marche bien. Et j'espère que ça ne va pas, au bout du compte, at the end of the day, nourrir le masochisme ambiant, quoi, qui est quand même extrêmement dominant. Quoi,
vous allez citer Bruckner et le long sans de l'homme blanc. Et...
Non, mais il n'y a pas que lui, même avant lui, plein de gens qui pensent ça. Donc passer de la vérité historique formidable... Si on passe à la remords, puis l'expiation, puis l'instrumentalisation, l'exploitation, au bout du compte, vous avez un peuple qui va raser les murs de plus en plus, alors que la Chine monte chaque jour. Bon, ça peut être l'inverse. On peut dire que ça peut assainir.
Il n'est pas tellement là dans la repentance, Emmanuel Macron.
Non, c'est pas son ton à lui. La déclaration d'Algérie, ça se discute, mais c'est pas son ton à lui, en fait. Mais je parle de la réaction d'un corps social qui est déjà porté quand même à l'expiation, la lamentation, se fouetter sans arrêt sur plein de choses. Si ça permet de dépasser ça et d'avoir une France qui, de façon plus courageuse et lucide, peut affronter les défis du moment, ça sera très très bien. Moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas.
Un Macron qui n'est pas dans la repentance, et ce sera ma dernière question sur cette première partie, Sylvie Kaufmann, et qui va, je le disais, j'ai du mal à vous en faire parler, réveiller la mémoire du général de Gaulle, mais aussi les commémorations du 11 novembre. Ça, quelle utilité dans le récit national macronien, cette séquence historique qui s'ouvre?
Moi, je crois que... Je pense que son roman national, c'est l'Europe, en réalité. C'est-à-dire, je crois que c'est ce qui... c'est ce qui apparaîtra. Je n'ai pas d'informations exclusives là-dessus, mais j'imagine que vu l'environnement géopolitique actuel et l'évolution des choses en Europe, très inquiétante, ce centenaire de 1910, de l'armistice en 1918, l'amènera plutôt à réaffirmer l'urgence de l'Europe et à essayer de la relancer. C'est là-dessus qu'il a fait campagne. On est en panne totale sur l'Europe et je crois que ce centenaire justement pourra lui fournir l'occasion avec tout le théâtre et toute la dramatisation qu'il ne manquera pas de lui donner avec tous ces chefs d'État qui seront là, mais à réaffirmer l'urgence du projet européen.
Transition toute trouvée, puisqu'on va maintenant aller voir comment s'écrit un autre récit national, celui de la Grande-Bretagne, qui nous amènera à parler d'Europe, bien sûr, celui de la Grande-Bretagne qui semble avoir du mal à graver dans le marbre son retrait de l'Union européenne.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
La Grande-Bretagne n'en finissait pas de ressasser l'humiliation de Salzbourg. Le 20 septembre dernier, l'orgueil britannique en avait pris un coup. À l'occasion d'un sommet européen des 27, Theresa May s'était vue retoquer son plan de Shakers, dont elle disait qu'il était un formidable compromis pour éviter le No Deal ou Hard Brexit, lui qui proposait un maintien de facto du Royaume-Uni dans le marché unique européen, avec maintien des règles européennes en matière de sécurité. Theresa May n'avait pas vu venir la surprenante unité retrouvée des Européens sur le dos de la perfide Albion. Cohésion inattendue des 27, tous brusquement en phase pour refuser de laisser les Anglais accéder au marché européen après le Brexit, car ils ne manqueraient pas, disait-on alors, de pratiquer le dumping, soit des marchandises à prix cassé, ayant retrouvé par ailleurs leur autonomie sur leurs services financiers. Digérer Salzbourg, donc, et en mesurer les conséquences en termes de politique intérieure, puisque ces prochains jours auraient lieu la grand-messe annuelle du Parti conservateur à Birmingham et celle du Labour à Liverpool. Comment Theresa May ferait-elle pour résister désormais à la concurrence des pro-hard Brexit de son parti? Comment ferait-elle pour garder la main, elle qui avait perdu la face? Quant à l'opposition travailliste, réussirait-elle à surfer sur les déboires de la première ministre, ce dont rêvait bien sûr Jeremy Corbyn? Corbyn, eurosceptique de gauche, qui devait entendre que d'autres, au Labour, n'excluaient plus de revenir sur le Brexit. En attendant, les europhiles pouvaient au moins se réjouir d'une chose, d'avoir de nouveau entendu la voix devenue si rare d'une Union européenne à l'unisson, et de se raccrocher à l'idée que s'il semblait si difficile de divorcer de l'Europe, c'était bien qu'elle avait encore un je ne sais quoi d'infiniment séduisant.
Throughout this process, I have treated the EU with nothing but respect.
Tout au long de ce processus, j'ai traité l'Union européenne avec respect. Le Royaume-Uni attend la même chose.
At the end of this process,
une bonne relation à la fin de ce processus en dépend.
At this late stage in the negotiations,
à ce stade des négociations, il n'est pas acceptable de refuser simplement la proposition de l'autre partie, sans explication détaillée ni contre-proposition.
No one wants a good deal more than me.
Personne ne souhaite un bon accord plus que moi. Mais l'Union européenne doit être claire. Je ne vais pas rejeter les résultats du référendum. Et je ne vais pas non plus dissoudre mon pays. Nous avons besoin d'un engagement sérieux concernant la résolution des deux gros problèmes qui pèsent sur cette négociation. Et nous nous tenons prêts pour cela.
Voilà Theresa May qui s'est adressée à son peuple britannique de retour de Salzbourg à la télévision. Hubert Védrine, vous êtes surpris par l'entente retrouvée des 27 sur le dos des Britanniques ?
Non, parce que là, ils ne défendent pas l'Europe en général, ils défendent le marché.
Business as usual.
Les règles du marché commun, qui est l'origine du projet, en fait. Et ils ont peur que ça le remette en cause. Donc il y a toute une série de peurs différentes, mais cumulées, qui aboutissent à une attitude que je trouve, moi, trop rigide, d'ailleurs. Je regrette que ce processus, je pense que le Brexit aurait pu être évité. Si l'Europe avait été plus compréhensive et plus intelligente et plus souple, comme Juncker, d'ailleurs, était prêt à l'être avant, si Cameron n'avait pas pris des risques inconsidérés, donc tout ça est tout à fait désolant. C'est évident que ça n'entraîne aucune contagion parce que ça les met dans une telle nasse que personne n'a envie de faire pareil. Ça ne veut pas dire que les peuples européens qui ne veulent pas sortir ne sont pas contents. Ils sont contents, ils ne sont pas contents, mais ils ne veulent pas sortir pour autant. Et donc je trouve que là, l'Europe est trop rigide. Si le Brexit a lieu au bout du compte, on n'en sait rien. Nous cinq, hein, on n'en sait rien en fait. On sait
pourtant,
pas,
parfois dans cette émission, vous osez des pronostics.
Non, mais ça dépend de péripéties internes à la politique britannique qu'on ne connaît pas du tout en fait. Donc si ça a lieu au bout du compte, je trouve ça dommage. Et je pense qu'il faudra à tout prix garder une relation forte avec la Grande-Bretagne, au moins sur le plan militaire. Sauver le traité de Lancaster House qui est franco-britannique. Parce que tout ce qu'on raconte sur la défense européenne... On ne sait pas si ça se concrétisera un jour. Donc ça, c'est très important, la relation franco-britannique. Et si, par hasard, au dernier moment, est-ce qu'il y aura un nouveau vote, je ne sais pas comment, les Anglais disent on reste, il faudrait organiser ça de façon positive. Voilà.
C'est vrai, Daniel Cohen, qu'il y a quand même une sorte de paradoxe, en tout cas, à le penser, à se dire que le Brexit ne se fait pas, alors même que l'euroscepticisme et l'europhobie nous est en permanence présenté comme un phénomène montant.
Oui, parce que l'Angleterre est dans une situation très complexe à cause d'un paramètre qui fait que la situation pour eux est ingérable en réalité. Ce paramètre, c'est l'Irlande. S'il n'y avait pas l'Irlande, on aurait un accord assez simple, du genre Canada-Europe. Il y a des frontières, on n'en parle plus, il y a des douanes, et puis voilà, c'est un coup pour les Britanniques, mais au fond, on peut sans doute vivre avec ça. Ce qui fait que cette solution dite canadienne, mais qui en réalité revient simplement à dire que les Britanniques rejoignent l'OMC et sont des partenaires, on va dire, comme tous les autres de l'Union européenne, c'est que ça signifie une frontière dure. Il y a des postes de douane où on vérifie que les marchandises obéissent bien à tous les prérequisites qui les autorisent à rentrer dans le marché unique européen. Et cette frontière dure, elle devrait s'appliquer à la séparation entre l'Irlande dite du Nord, de Belfast, et puis le reste de l'Irlande, celle de Dublin, l'Irlande qu'on connaît en Europe. Ça, c'est inacceptable. Ni pour les Irlandais du Nord, ni pour les Irlandais du Sud, cette solution n'est possible. Donc, c'est cette question, j'ai envie de dire à l'exclusion de presque toutes les autres, qui doit faire l'objet d'une réflexion en profondeur. Madame May a pensé qu'elle allait trouver une formule qui était possible, mais à condition de bénéficier de la bienveillance des autres. Et cette bienveillance, on lui a expliqué à Salzbourg qu'elle n'était pas là parce qu'on n'avait pas envie, un mois avant les élections européennes, en tout cas, de donner le signal que c'était très facile de s'en sortir comme ça. Elle était de dire, très bien, nous restons dans le marché unique pour tout ce qui est l'échange de marchandises, agriculture et industrie, donc pas de frontières dures. Et pour le reste, au revoir et à bientôt, pour les services financiers, pour la politique migratoire la politique de mobilité intra
eu, eh bien, évidemment, au revoir et à bientôt. Ça veut dire, on fait du, ce que les Anglais appellent du cherry picking, c'est-à-dire on fait un menu à la carte, on prend ce qu'il y a de mieux, on laisse le reste. Et Donald Tusk a un peu humilié Madame May en prenant une photo d'elle en train de chercher de prendre un gâteau, et il a dit no cherry picking. Cherry picking, ça veut dire voilà, prendre les choses comme elles vous plaisent.
Ça va pas picorer.
Et elle s'est sentie humiliée. Je pense qu'elle l'a été d'une certaine manière. Elle est revenue en Angleterre en disant il faut me traiter avec respect. À quoi immédiatement les commentateurs ont répondu mais si vous réclamez le respect, c'est que vous ne le méritez pas. Donc il y a eu quelque chose d'assez dur qui s'est produit.
C'est-à-dire un certain nombre de journaux britanniques ont titré sur l'humiliation.
Ah bah oui,
qu'elle a été ressentie aussi.
Ah bah bien sûr, on lui a dit non, tu fais pas ton menu. Alors maintenant, revenons au fond, si vous voulez bien, rapidement. Qu'est-ce qu'on fait de cette question irlandaise? Alors, il y a donc deux modèles qui se dessinent. Un, c'est le modèle canadien, frontière, on ne sait pas quoi faire. L'autre, c'est ce qu'on appelle le modèle norvégien, mais qui n'arrivera jamais. La Norvège, au fond, est comme un membre de l'Union européenne. Elle paye sa contribution, elle participe à toutes les politiques, mais elle n'a pas la voix au chapitre. Donc, c'est évidemment absurde pour les Anglais d'avoir fait le Brexit pour simplement continuer d'avoir toutes les obligations anciennes sans avoir la voix au chapitre. Donc, qu'est-ce qui reste comme solution? Mais je crois que c'est la seule possible, c'est celle que propose Barnier, une fois exclu la solution de May, la solution Chequers, une fois exclu au motif que ça donnerait un signal qu'on peut sortir trop facilement de l'Europe. Mais c'est d'accepter qu'il y aura une frontière entre l'Irlande, y compris du Nord, et le reste du Royaume-Uni. Et ça, pour les Anglais, c'est très dur, pour les Irlandais du Nord, c'est très dur, mais de facto, c'est la seule solution. Alors Barnier, le négociateur européen, dit, on va le faire de manière non humiliante, il y a des informaticiens, des scanners sur les ports d'entrée qui vont permettre de suivre les marchandises entrées, on aura peut-être des douaniers européens et anglais, pour faire que, de facto, l'Irlande du Nord appartienne bien à l'Irlande tout court du point de vue commercial, ça veut dire une frontière. Tant que, mais peut-être que j'exagère et peut-être que vous voyez les choses autrement, mais tant que Madame May n'aura pas fait le deuil de cette idée qu'elle peut garder l'Irlande et l'Europe, alors il n'y aura pas de solution et pas d'avantage pour les travaillistes. Donc il faut aller en effet vers cette solution si on veut sortir de ça. C'est très difficile, mais il n'y a pas, tel que je le vois, d'alternative sur la table à ce schéma de demi-renoncement à l'intégrité territoriale du Royaume. Voilà.
Sylvie Kaufmann, il y a juste ce nœud irlandais à résoudre. Mais au-delà, vous sentez qu'il se passe quelque chose. On peut évidemment pas parler de retournement de situation, mais est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose en Grande-Bretagne sur le sujet épineux qui divise, on le sait, profondément la société britannique encore aujourd'hui sur le Brexit?
Je crois que ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, c'est que tout d'un coup, les Britanniques se réveillent de leurs rêves. Et qu'ils réalisent, et ça, le Salzbourg a été un choc pour cette raison, c'est qu'ils réalisent, c'est ce que leur a dit en fait Emmanuel Macron de manière, c'est vrai, assez brutale, que tout ce qu'on leur a raconté, tout ce que leur ont raconté les leaders du Brexit, les Brexiteurs, ça a commencé par Boris Johnson, depuis le 23 juin, enfin même pendant la campagne du référendum du 23 juin 2016, que ça allait être facile, qu'ils allaient tout gagner à quitter l'Union européenne, ce sont des mensonges. Et ils se sont retrouvés seuls face à un mur, le mur des 27, qui a été bâti, je dois dire, avec pas mal de talent par Michel Barnier. Il faut voir ce que c'est que son équipe. C'est une équipe de 60 personnes. Il a une équipe de négociateurs de 60 personnes, 19 nationalités. Il y a même un Norvégien qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il a parmi ses conseillers, il a un Norvégien pour justement contribuer à l'examen des mérites du modèle norvégien. Et l'équipe Barnier a été très habile à bâtir cette unité dont vous parliez tout à l'heure, cette unité des 27. C'est quand même assez remarquable vu les divisions qu'on a sur des tas de sujets en Europe, d'être arrivé à maintenir pendant 2 ans l'unité des 27. Donc la pauvre Theresa May se retrouve en effet dans un Conseil européen comme celui de Salzbourg face à un mur de 27 autres États dont la préoccupation finalement principale est de protéger l'Union européenne. Et c'est vrai, c'est le bon sens, c'est terrible pour les Britanniques. Alors par ailleurs, eux ont des divisions absolument énormes politiques. On voit bien, on a eu le congrès du Parti travailliste, on a le congrès du Parti Tory qui commence aujourd'hui. Et les deux partis, ces deux congrès sont totalement focalisés sur cette question de Brexit. On ne peut pas discuter avec des Britanniques aujourd'hui d'autre chose que du Brexit. C'est tout à fait existentiel en ce moment pour eux. Donc, ils sont à ce moment où l'horloge tourne, il n'y a plus que quelques semaines, enfin quelques mois avant le 29 mars 2019, qui est la date butoir, mais on doit arriver à un accord avant novembre, et tout d'un coup arrive le spectre de du no deal, c'est-à-dire pas d'accord. Et qu'est-ce qui se passe le 29 mars s'il n'y a pas d'accord entre la Grande-Bretagne et les 27? La Grande-Bretagne sort de l'Union européenne et devient un pays tiers.
Et votre intime conviction?
Je ne sais pas. Je suis optimiste de nature, donc j'ai toujours pensé que ça, c'était le jeu des négociations, ça se durcit au dernier moment, etc., pour chaque partie essayant d'obtenir le meilleur morceau. Il y a certainement de ça, mais je vois aussi que des deux côtés, tout d'un coup, on commence à se précipiter, à faire des préparatifs pour l'hypothèse du no deal, parce que c'est vrai que ça peut être un chaos logistique, économique, financier. Enfin, imaginez que l'espace aérien, par exemple, britannique, est régi par l'Agence de sécurité européenne aérienne. Donc, si du jour au lendemain ça s'arrête, il y a des mesures, vraiment des choses toutes bêtes comme ça, enfin toutes bêtes, très pratiques, très concrètes, mais très importantes.
Parce que les Eurostars pourraient continuer d'arriver, Gare du Nord, comme
donc,
c'était cité dans la presse anglaise.
Je vois que du côté européen et du côté britannique, on est en train de prendre des mesures d'urgence pour être prêt au cas où. Donc, c'est pas totalement exclu non plus comme scénario.
Vous disiez tout à l'heure, Sylvie Kaufmann, que les Britanniques avaient d'abord vécu dans cette fiction ou cette illusion que le Brexit allait se dérouler avec une incroyable facilité. Alors, il y a ce livre très étonnant, lui aussi, cette semaine, de Mark Roche. Je suis sûre que vous l'avez juste au moins tous autour de moi feuilleté par curiosité, puisque son titre est assez étonnant. Ça s'appelle « Le Brexit va réussir », publié chez Albin Michel. Alors, la thèse est simple. Après avoir subi des dégâts de court terme, la Grande-Bretagne va forcément sortir plus fort de l'épreuve, reprendre sa course au grand large pour se forger un nouveau destin, à la fois plus britannique, plus planétaire. Est-ce qu'on peut encore vraiment croire à ce scénario-là, Philippe Magnin ?
Il est extrême, ce scénario. Il est même, à force d'être extrême, modérément crédible. Mais je pense que l'idée selon laquelle le Royaume-Uni peut très bien se tirer d'affaire après le Brexit n'est pas du tout une idée folle. Et pour revenir sur ce que disait à l'instant Sylvie, je ne suis pas complètement d'accord avec elle sur le fait que beaucoup de gens sont ressortis de leurs illusions, en tout cas maintenant pensent que l'idéal pour le Royaume-Uni serait de rester dans l'Union Européenne. Bien sûr, il y a des gens qui ont changé d'avis et qui pensent ça, mais je pense qu'il y a une très grande partie du peuple britannique qui continue à penser que le destin éternel du Royaume-Uni, c'est la liberté et une forme d'isolement.
L'illusion, c'est qu'ils pouvaient en sortir facilement.
Oui, non, mais... C'était ça. Écoutez, il reste 6 mois. Donc, si dans 6 mois, malgré la... Qu'est-ce que ça peut faire, la difficulté des négociations là d'aujourd'hui à l'échelle historique? Oh, ça n'a aucune importance. Donc, il n'est pas absurde de penser, quand on est britannique, et beaucoup de Britanniques pensent comme ça, que c'est difficile, que c'est une négociation, que c'est comme ça, que bien sûr ça allait pas être facile de sortir, mais qu'ensuite ça peut se passer pas trop mal. Moi je crois un peu à cette idée malgré tout. J'aurais préféré que le Royaume-Uni restât dans l'Union Européenne, hein, soyons clairs, mais je pense que ça n'est pas insensé d'imaginer que ça se passe pas mal. D'une part parce que chaque fois qu'on m'a dit que le Royaume-Uni venait de faire un choix désastreux qui le condamnait à mort, évidemment 6 mois plus tard, les Royaumes-Unis avaient gagné un avantage. Je prends
par exemple,
un exemple, la création de l'euro. Beaucoup de gens ont dit c'est la mort de la City. Devinez quoi, 6 mois plus tard, la ville de Londres était l'endroit où on traitait le plus d'euros dans le monde. Donc, il y a des tas de cas où on nous a dit que le Royaume-Uni venait de signer son arrêt de mort et où le Royaume-Uni est sorti au moins aussi bien qu'avant, si ce n'est renforcé. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que bien sûr, il y a toutes ces questions très triviales qui viennent d'être évoquées et qui ont leur importance, dont certaines ne trouveront pas de solution facile, le passeport, les Eurostars, etc. Mais enfin, moi, je ne crois pas que ce soit des problèmes très compliqués à régler pour la plupart. Je prends juste un exemple. Vous avez déjà vu, comme moi j'imagine, des Américains en France, personne ne leur demande leur permis de conduire international. Ils peuvent emprunter une voiture. Enfin, c'est pas une difficulté du tout. Il y aura une transition difficile, mais dire que du jour au lendemain, toutes sortes de choses qui sont aujourd'hui faciles seront impossibles, c'est faux. Ce sera compliqué pendant une période de transition, puis on trouvera des solutions. Et puis, les Britanniques, comme les Suisses, comme les Américains, comme toutes sortes de nations dans le monde qui sont sans arrêt chez nous et qui font toutes sortes de choses, feront la même chose que les autres quand ils seront chez nous. Alors maintenant, un point sur lequel je pense qu'il faut insister, c'est ce qu'on demande aux Britanniques. Ça n'est pas tout à fait rien. Bien sûr, il ne faut pas refaire de frontières au sein de l'Irlande. Et bien sûr, il n'y a pas de solution. C'est au sein de l'Irlande ou c'est entre l'Ulster et le reste du Royaume-Uni. Mais cette seconde hypothèse, elle est quand même extrêmement attentatoire à quelque chose dont moi je comprends que les Britanniques y soient attachés. Imaginez qu'on dise à la France, écoutez, voilà, on va trouver un arrangement, la frontière sera désormais entre l'Alsace et le reste de la France. Enfin, écoutez, c'est quand même pas un truc qu'on avale comme ça sans sourciller. Donc, moi, je finis, sur un point. la Corse, c'est un peu insultant. Je ne sais pas pour qui, d'ailleurs, je ne veux pas aller plus loin. Mais enfin, l'Alsace, c'est un gros morceau de la France auquel on est attaché pour des raisons historiques. Je trouve que la comparaison n'est pas insensée. Alors, dernière chose, si ce qui est at stake, comme disent les Britanniques, devient à ce point essentiel dans les représentations britanniques, on peut avoir à ce moment-là une crispation du Parlement. Moi, c'est la seule hypothèse que je peux imaginer où le Brexit ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va peut-être demander aux Britanniques quelque chose qui est tellement impossible à accepter que peut-être le Parlement ou le peuple changera d'avis. Mais je pense que l'illusion reste entière que les Britanniques peuvent avoir un destin hors Europe, sauf si on les oblige à quelque chose d'inacceptable naturellement.
Daniel Cohen.
Juste Philippe. Si l'Irlande, c'est l'Alsace, il n'y a pas de solution au problème.
C'est ce que je dis.
Donc c'est une crise majeure. Il n'y a pas de solution au problème. Les Européens ont refusé, et ils vont pas revenir en arrière, la solution qui permettait de garder l'Alsace en France, l'Irlande, l'Ulster dans le Royaume-Uni, en tout cas pour ce qui est de la contiguïté géographique et commerciale. Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution politique aujourd'hui. À l'heure où on parle, on peut réfléchir dans tous les sens. Oui, les négociateurs trouveront des idées géniales. Mais à part la solution de Barnier qui est de dire « acceptez la fragmentation territoriale », vous n'aurez pas de solution au problème. Sachant que Madame May a convoqué des élections anticipées l'année dernière et qu'elle n'a plus de majorité que parce qu'elle bénéficie des 9 parlementaires de l'Ulster qui constituent sa majorité. Donc on va vers une crise politique. Corbyn et le Labour ne disent rien parce qu'ils sont incapables eux-mêmes d'avoir un point de vue sur cette question, sachant que le Labour est à peu près aussi divisé sur cette question que les conservateurs. Il y a plus de 40% des électeurs du Labour qui ont voté en réalité pour le Brexit, et Corbyn lui-même, on n'a pas trop d'histoire à se raconter, il est lui-même pour la sortie de l'Union européenne. Donc la seule solution, c'est une crise politique, de nouvelles élections, et le nouvel gouvernement sera obligé d'avaler la couleuvre de l'Alsace qui sera séparée territorialement, ou d'aller vers la Norvège. C'est-à-dire l'absurdité totale de sortir d'une union pour simplement perdre le droit de veto. Donc il n'y a pas de solution simple. C'est pas on verra, on trouvera. Il n'y a pas de solution simple. Et je vois mal comment les Britanniques vont échapper à une crise politique, sauf à accepter ce principe de réalité que Barnier ne cesse de leur répéter. N'en faites pas une histoire, c'est rien du tout. Mais Philippe, je suis d'accord
avec
vous.
N'en faites pas une histoire, l'Alsace, vous imaginez.
Mais attends, doucement, je suis d'accord, ouais, voilà. C'est une histoire, parce que derrière l'Ulster, il y a aussi l'Écosse, et United Kingdom, le Royaume-Uni, voilà. En réalité, s'est mis un barillet sur la tempe, qui va très au-delà de la question de combien on paye de contributions, etc. Elle est menacée, il est, le Royaume-Uni, menacé par cette affaire de désintégration. Parce que quand l'Irlande sera de facto dans l'Union européenne, pour toutes les raisons dont on vient de parler, alors l'Écosse aura un jeu facile de réclamer aussi une frontière. Donc, en fait, on est sur une crise politique majeure, interne, parce qu'il n'y a pas de solution dans la configuration qui est proposé. Et deuxièmement, pour le Royaume-Uni, c'est très gros. Alors, ils s'en sortiront peut-être avec juste la City, mais c'est un danger vital pour ce Royaume-Uni. Alors maintenant, par rapport juste au 29 mars, on trouvera peut-être des solutions. C'est-à-dire, on va dire, il y a les élections, on va trouver un accord de 6 mois. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se trouver, mais effectivement, la comparaison avec l'Alsace est parlante, parce que c'est comme ça que c'est vécu, et c'est la raison pour laquelle c'est très, très difficile même de concevoir ce que pourrait être une solution.
Dernier temps de cet échange, parce qu'on n'oublie pas qu'on est ici au Théâtre de l'Odéon, qui s'appelle également le Théâtre de l'Europe. C'est vrai qu'au moment du Brexit, on a senti, Hubert Védrine, ce point de cassure, ce point de rupture dans l'ascension ou la progression de l'idée européenne. Est-ce qu'on peut encore espérer le mouvement inverse?
Vous trouvez qu'on est passé de théâtre trop, justement?
Peut-être. Soyez un peu plus théâtral, Hubert Védrine.
Par rapport à votre question et au-delà du Brexit, les premières interventions, pas la reine, deuxième, mais la première intervention de Daniel et celle de Sylvie ont bien montré que le système européen a été terrorisé par le vote du Brexit, terrorisé par l'idée de la contagion. C'est-à-dire à quel point le système européen n'est pas sûr de lui, en fait. Et je pense que même si le Brexit a lieu jusqu'au bout, hélas, de façon très pénalisante pour les raisons des contradictions qui ont été rappelées, ça ne règle pas du tout la question. Il y a tous les peuples qui sont dedans, qui veulent pas sortir, mais qui sont pas contents, pour des tas de raisons. Et cette question est absolument devant nous. Elle n'est pas réglée.
Oui, parce Sylvie Kaufmann. Daniel parlait de l'intégrité du Royaume-Uni et en ce qui concerne l'Union européenne, c'est aussi une question d'intégrité de l'Union européenne. Le cherry picking, c'est-à-dire choisir parmi les quatre libertés fondamentales, il n'en est pas question parce
c'est
que ce que veulent
après,
absolument,
ça.
Voilà, ce que veulent absolument éviter après. Barnier et,
non,
et
une,
les autres,
c'est une construction c'est que, après. C'est l'idée qu'un peuple dise, on va plus dans la direction téléologique.
Non, c'est pour ça que je parlais de points de capacité.
Surtout, ce qu'on veut éviter, c'est que il soit facile de quitter l'Union européenne, parce qu'à ce moment-là, vu la situation politique interne,
donc ça veut dire qu'on a peur que tout le monde sorte,
décrite,
c'est ça?
Voilà.
Donc
c'est
faut
une question existentielle pour l'Europe.
Alors c'est en dit long sur l'état de l'Europe, ça.
Tout à fait.
C'est la France et la Corse.
c'est pourquoi Sylvie Kaufmann, je parlais de moments de rupture dans l'histoire européenne. Le fait même qu'il y ait de telles difficultés à quitter l'Union européenne, est-ce que ça nous entraîne, est-ce que ça nous amène vers autre chose?
Autre chose.
Un mouvement inverse après cette période de dégoût de l'idée européenne.
Ce que voudraient obtenir ceux qui tiennent encore à une Europe unie et au projet européen, c'est justement d'essayer à quelque chose malheur est bon, dit-on, de sortir de cet épisode qui va être traumatisant pour tout le monde, autant pour les Britanniques que pour nous, mais d'en retirer quelque chose de positif pour l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire à partir de cette unité qui a été créée autour des 27, autour du Brexit, essayer de rebondir là-dessus et de bâtir autre chose.
Mais alors bon, de manière,
non mais
pas
d'abord,
du tout
juste sur l'échéance du Brexit, faut pas oublier que l'horloge fait tic-tac pour nous aussi et que nous aussi on a beaucoup à perdre au Brexit. Hein. Faut pas oublier que nous sommes très excédentaires en commerce extérieur vis-à-vis du Royaume-Uni, nous le bloc européen, la France en particulier, et que donc ce qu'on dit aujourd'hui sur le thème la pauvre mai, elle est acculée, ah là là, il y a pas de solution et le mars 2019 arrive, ça vaut aussi pour nous. Et moi, je crois qu'il ne faut jamais oublier que ce sont des négociateurs assez forts, traditionnellement, les Britanniques, et qu'à un moment, on va se dire que nous aussi, on a intérêt à signer. Et donc, à ce moment-là, l'équilibre des forces risque d'être un tout petit peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que les Britanniques jouent là-dessus. Alors, s'agissant de l'Europe, du reste de l'Europe, j'allais dire au sens propre, ce qu'il reste de l'Europe après... Moi, je trouve très curieux qu'on s'écharpe sur ces questions commerciales dans l'Union, alors qu'en réalité, c'est l'intérêt de tout le monde de commercer et que personne ne remet en cause le fait que c'est l'intérêt de tout le monde de commercer, ni les Britanniques, ni les Européens. La liberté qui fait problème, et là, je rejoins complètement Hubert Védrine, je crois, c'est la liberté de circulation. La raison pour laquelle les Britanniques ont voté au Brexit, la principale, c'est la présence massive de citoyens polonais sur le sol britannique qui était perçue comme une menace à la fois identitaire, pour des raisons à la fois religieuses, comportementales, peu importe, et pour des raisons économiques, c'est-à-dire que la quasi-totalité du bâtiment à Londres maintenant est entre les mains des Polonais, j'exagère mais pas beaucoup. Je ne dis pas que c'est une réaction louable, je dis que c'est pour ça que s'est nouée l'envie de sortir de ce bloc européen. Et que cette question qui à la fois est le fait générateur du Brexit essentiel, je crois, et qui est la question qui fait macérer le reste de l'Europe aujourd'hui, je veux dire les autres libertés, tout le monde s'en fiche. Ce qui fait que les gens deviennent anti-européens dans la plupart des pays de l'Union aujourd'hui, j'en suis très triste personnellement, c'est la liberté de circulation. Les gens ne veulent pas qu'arrivent chez eux, car ils considèrent que chez eux c'est un pays, ça n'est pas l'Union l'Union européenne, des gens qui viennent d'ailleurs, fût-ce des autres pays de l'Union. Et a fortiori quand les autres pays de l'Union peuvent éventuellement admettre des gens qui viennent de pays tiers et qui pourraient rentrer chez eux juste parce qu'ils sont rentrés ailleurs. Donc cette liberté de circulation qui est fondamentale, qui est le problème majeur que doit affronter aujourd'hui l'Europe, c'est celui dont on ne parle pas et celui qu'on cache s'agissant de l'Europe, et c'est celui qui pourtant a fait partir les Britanniques. Donc c'est singulier parce qu'on revient pratiquement sur la première partie de notre émission, on revient sur le déni et sur le tabou.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les cas, Daniel Cohen, Sylvie Kaufmann, Hubert Védrine, Philippe Manière. Merci à Alice Combe qui a réalisé cette émission, à Marine Beccarelli qui l'a préparée avec moi, et merci bien sûr pour la gentillesse de leur accueil à toutes les équipes de l'Odéon. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver les bonnes choses de Caroline Brouet avec la chef cuisinière qui a inspiré Michelle Obama pour une meilleure alimentation dans les cantines scolaires, suivi de Signe des Temps, Marc Weisman, sur les ambiguïtés du mouvement MeToo un an après. Quant à nous, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. Notez aussi que nous serons en direct de Blois dimanche 14 octobre pour les rendez-vous de l'histoire, et de nouveau ici à l'Odéon le 2 décembre prochain. Inscrivez tout cela d'ores et déjà dans vos agendas. Bon dimanche à tous, à l'écoute de France Culture.